Au-delà des classiques notions d'espace où l'homme projette ses pas, il est une dimension où peuvent se glisser par les innombrables portes du temps ses désirs les plus fous. Une zone où l'imagination vagabonde entre la science et la superstition, le réel et le fantastique, la crudité des faits et la matérialisation des fantasmes. Pénétrez avec nous dans cette zone entre chien et loup.
N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. Septième dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vérif signé 7ème Dimension. Donc on va rappeler un petit peu ce que c'est La Vérif pour les derniers arrivants qui commenceraient ce podcast par cet épisode. Alors La Vérif, c'est notre format court qui va être dédié en fait aux pépites du genre qui vont être soit rééditées ou remasterisées en Blu-ray ou soit des pépites qu'on n'avait pas pu voir au ciné et qu'on récupère par ce biais-là, celui du support physique. Donc on va continuer dans la thématique entamée depuis le mois de septembre qui est dédiée aux films de castagne, aux films de baston à base d'arts martiaux. Donc on reste chez la canon, on abandonne les ninjas, j'espère que vous avez écouté ce fabuleux podcast long sur l'American Ninja. Donc on reste chez la canon et cette fois-ci on va s'attaquer à un autre gros morceau de l'époque qui est là un des représentants de la filmographie de Monsieur Jean-Claude Van Damme. Alors Jean-Claude Van Damme, je l'aime beaucoup. Voilà. Alors, et c'est vrai que aujourd'hui, quand on aborde cet acteur Jean-Claude Van Damme entre amis ou avec des gens qui sont pas trop aficionados du cinéma de castagne, souvent ça prête à la rigolade. Donc on a une image aujourd'hui qui est faussée de Jean-Claude Van Damme et ça serait bien. Donc au travers de ce, on va dire, modestement au travers de ce format court de la vérif, qu'on puisse lui rendre hommage, parce qu'il a une putain de carrière ce mec-là, et il occupe une place à part aussi dans notre cœur, parce que, quelque part, donc il est pas français mais il est belge, mais on a l'impression en fait qu'il vient un peu d'ici, et qu'il a réussi à réaliser le rêve hollywoodien. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de sa carrière, il y a peu de gars qui peuvent aujourd'hui se dire « putain, j'ai fait comme lui », quoi. Donc ça, c'est aussi avoir une forme d'humilité, et une sorte d'objectivité intellectuelle de reconnaître que ce mec-là, il a une carrière hors du commun, et du coup, on va embrayer sur ce film-là, Kickboxer. Alors pourquoi je vous parle de Kickboxer ? Tout simplement parce que le film a été réédité, remasterisé en Blu-ray par ESC Distribution. Alors vous remarquez que souvent, je parle de nos éditeurs hexagonaux, et c'est bien, il faut en parler aussi, parce qu'ils font un super travail au niveau du packaging, au niveau de la réédition, au niveau du mastering, et ça nous permet de découvrir en fait ces films-là dans de bonnes conditions, parce que souvent on les a découverts en VHS. Alors moi, Kickboxer, j'aurais pu le voir au ciné, mais ça n'a pas été le cas. Certains l'ont vu au ciné, donc ça permet aussi de pouvoir redécouvrir ces films-là et les regarder voilà, dans le cas de Kickboxer presque 30 ans après et de pouvoir y jeter un œil nouveau dessus. Donc c'est une édition qui a été faite en fin 2019, donc vous voyez, on est quasiment à la fin 2020, donc vous voyez combien de temps il m'a fallu pour arriver jusqu'à ce Kickboxer. Faut trouver aussi l'envie, c'est pour ça que la thématique est là, et effectivement, voilà, j'ai pu me le voir il n'y a pas longtemps. J'aurais pu taper aussi par rapport à l'actualité, c'est-à-dire que là je vais sortir ce podcast avant Halloween, j'aurais pu aller me farcir un film de genre, mais j'ai envie de vous dire que tous les podcasteurs du moment ont déjà fait leur film d'Halloween, et puis j'ai envie de sortir aussi de ce passage obligatoire, donc j'ai pu vous parler des Maniacs, des The Blob et tout ce que vous voulez avant que ça soit Halloween. Donc vous avez envie de vous faire un podcast de 7ème dimension thématique pour Halloween, faites-vous celui de Maniac. Donc voilà, parenthèse refermée, on va revenir un petit peu dans un premier temps sur Jean-Claude Van Damme avant de parler de Kickboxer. Donc Jean-Claude Van Damme, c'est un artiste martial, voilà, qui a tout plaqué pour aller vivre le rêve américain et devenir acteur de premier plan. Alors, ce genre de scénario-là, on l'a entendu, on l'a lu déjà, et c'est vrai qu'il est l'un des rares à avoir pu réaliser cette chose-là. On pourrait le comparer à quelque part à ce qu'a fait Stallone également de son côté, voilà, dans une moindre mesure. Donc le petit Jean-Claude est allé aux États-Unis une main devant, une main derrière, quasiment, avec très peu d'argent en poche, et la légende, donc on va pas aller fouiller ces choses-là, mais la légende voudrait qu'il a fait du forcing pour rencontrer Menahem Golan, du coup de la Canon, et il lui a tapé un grand écart dans son bureau, et à partir de là, Menahem Golan a sorti le scénario de ce qui deviendra son premier film, c'est-à-dire Bloodsport, et lui a dit « Jean-Claude, je vais te faire de toi une star ». Voilà, donc ça c'est la légende, bien entendu il y a souvent un petit peu de mytho à l'intérieur, mais globalement c'est à peu près ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jean-Claude, il y a été au culot, et il y a été au culot aussi parce que il était préparé, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une carrière dans les arts martiaux, il aurait pu avoir une carrière aussi dans la danse. On a un artiste martial, et en plus, à la différence par exemple d'un David Bradley ou d'un Michael Dudikoff, il sait jouer. Et comme le dirait notre Jean-Claude, il fait de l'acting, you know. Donc il sait jouer la comédie, et il a plutôt une belle gueule. Donc ce qui fait qu'il a tous les atouts pour pouvoir en fait être propulsé star du film d'action. Donc ça se fera avec Bloodsport. La légende veut aussi que Bloodsport était mal monté, mal shooté au niveau des scènes d'action, et que Jean-Claude a pu avoir carte blanche en soudoyant Menahem Golan pour pouvoir refaire le montage, et au final participer au succès et à la réception publique, donc au succès public et critique de ce film là en salle. Donc du coup sa carrière décolle assez rapidement, donc il va enchaîner Bloodsport, il va enchaîner Kickboxer l'année d'après, et ensuite on va le retrouver dans un Albert Pune toujours chez la Canon qui est Cyborg, et après ça va s'enchaîner avec Coup pour Coup, et au fur et à mesure, et ben forcément ça va être des succès à la fois en salle et en vidéo, et les budgets vont grimper et les offres vont être de plus en plus intéressantes pour pouvoir être la tête d'affiche de gros budgets comme sont par exemple Universal Soldier. Voilà, l'Universal Soldier de Roland Emmerich. Donc cette saga Universal Soldier, j'y reviendrai au mois de décembre. Voilà, j'ai annoncé que j'allais dédier en fait un podcast long sur la saga Universal Soldier parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc Jean-Claude Van Damme, c'est une carrière hors du commun pour un acteur hors du commun. Donc moi ce que j'aime notamment chez Van Damme, c'est je trouve qu'il a, même dans ses dérapages télévisuels et dans tout ce qu'on a pu en voir dans les années 2000, ce que j'aime c'est qu'il a une forme de sincérité. Et ça, on ne le retrouve nulle part ailleurs chez un acteur de cette trempe. Donc il a une forme de sincérité où t'as envie de lui pardonner les errances, et c'est quelqu'un qui est proche de son public et qui a toujours tout donné tant devant la caméra que derrière la caméra. Donc ça, faut pas l'oublier aussi. Et c'est ce qui fait pour lui un espèce de capital sympathie qui fait encore que Jean-Claude Van Damme, c'est un nom qui résonne aujourd'hui et qui est encore vendeur. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Surtout à l'heure actuelle où un deal est annoncé entre Jean-Claude Van Damme et Netflix. On ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, il y a de fortes attentes derrière. Donc, quelle est la particularité de Jean-Claude Van Damme? Qu'est-ce qui fait que Bloodsport ou Kickboxer sont des films qui ont marqué leur génération? C'est que Jean-Claude Van Damme, c'est un putain d'acteur martial. Voilà. Donc, c'est-à-dire là, je comparais par exemple un David Bradley, un Michael Dudikoff, même si on a dit que David Bradley était un artiste martial, quand tu vois ce qu'il fait dans American Ninja, dans la Canon, bon, il y a un peu de montage. Alors, j'ai pas dit que j'étais un artiste martial moi-même, mais c'est pas dingue. Alors que du coup, avec Jean-Claude Van Damme, arrive une certaine forme d'iconisation, en fait, et il fait des trucs qu'on n'avait pas vus, excusez-moi, depuis au moins Bruce Lee. Et là, je parle du côté occidental. Pour ceux qui sont fans de cinéma asiatique, vous pouvez me sortir tous les noms, vous me direz « Mais non, il y avait déjà lui, ça, d'accord. » Là, je vous parle au niveau d'une réception d'un public occidental dans une salle de cinéma qui soit française. C'est-à-dire que ce que fait Jean-Claude Van Damme, c'est incroyable. Et son grand écart, ça sera sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'on le retrouvera sur les couvertures de magazines, on le retrouvera dans des shows télévisuels. Donc, c'est un truc qui marque les esprits. Et Et quand on le voit à l'écran, ouais, ça marque, c'est bien chorégraphié. Et c'est ça aussi la force de Jean-Claude Van Damme, c'est qu'il va chorégraphier lui-même ses scènes de combat. Donc, quelle est sa paternité, en fait, sur ses premiers films? On pourrait dire qu'elle est 50-50. C'est-à-dire que les réalisateurs de l'époque ne sont pas des grands réalisateurs, ils vont s'occuper plutôt de l'aspect technique que ne connaît pas Jean-Claude Van Damme. Par contre, comment positionner la caméra lors des scènes de combat et justement au montage, comment mieux monter le film pour mettre en valeur les scènes de combat et l'impact, ça on le doit à Jean-Claude Van Damme, et on a tendance à le minimiser. Donc c'est-à-dire que oui, Jean-Claude Van Damme a une influence sur le cinéma d'action dans les années 80. Et revoir aujourd'hui Bloodsport, qui est plutôt Kickboxer, excusez-moi, parce que les deux, on pourrait dire qu'ils sont similaires. Ils se sont tournés à un an d'écart et ça traite à peu près le même sujet, à quelques lignes de dialogue près et quelques péripéties près. Donc quand on voit Kickboxer aujourd'hui, ouais, le revoir, on se dit, ouais, on voit clairement ce qui fait la différence entre un American Ninja ou une autre production, en fait, du coup, d'action de la Canon et celui-ci, c'est que le niveau est pas le même. D'entrée de jeu, le niveau est pas le même. Van Damme crève l'écran et ce qu'il fait à l'écran, ouais, ça, c'est en un seul plan et tu vois que le mec, il défonce. Voilà. Ce qu'il faut aussi comprendre sur cette ascension, on va dire, de Jean-Claude Van Damme des années 80, c'est que très rapidement, vous pouvez retrouver, moi je l'ai eu vu dans la chambre des grands frères, des potes, etc., des posters, à côté du poster de Bruce Lee, où vous aviez le poster de Van Damme, et de personne d'autre. C'est-à-dire que si vous regardez les affiches de Bloodsport et de Kickboxer, c'est ultra iconique, et c'est ultra violent. Voilà, donc c'est ce qu'on retient par exemple d'un film de si on parle de Kickboxer, voilà, sans résumer le film, on va vous dire, ah ouais putain, c'est le film où Jean-Claude, en fait, il se bat à l'ancien, c'est-à-dire avec des gants voilà, qui sont pas des gants, qui sont faits de lanières, où il va tremper ça en fait dans des tessons de bouteille. Voilà. Donc rien que l'idée, elle est géniale, et c'est ce qui marque les esprits. Donc il n'y a pas énormément de choses dans ses premiers films, mais les choses qui sont marquantes et sont bien exploitées. Donc, Kickboxer, voilà, ça arrive un an après l'uppercut que fut Bloodsport. Alors, Bloodsport, c'est 88, c'est l'émergence de Jean-Claude Van Damme dans un film de tournoi qu'on pourrait assimiler comme une sorte d'hommage à Opération Dragon. Donc, et c'est la découverte d'un artiste martial qui crève l'écran. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit la réussite de ce Bloodsport-là au fait que Van Damme soit repassé pendant des nuits et des nuits sur la table de montage pour en faire quelque chose, voilà, au niveau des combats. Donc, Bloodsport, c'est un succès en surprise en salle. C'est aussi un succès en vidéo, parce que n'oubliez pas que les années 80, ça marche essentiellement aussi sur le va-et-vient entre la salle et la vidéo. Donc, Jean-Claude Van Damme, ça commence à rentrer dans les esprits. Et je vais même vous dire, ça plaît même à ta grande sœur et à ta mère, Jean-Claude Van Damme. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un peu d'acting, il a une belle gueule, donc ça passe à tous les niveaux. Donc on arrive sur l'année 1989, et là, on le voit, donc c'est pas non plus un très gros budget de la Canon, on doit avoisiner entre 5 et 10 millions de dollars sur le budget, mais on voit déjà une volonté de production, de donner sa chance et de mettre les billes au bon endroit, c'est-à-dire que contrairement à des American Ninja où les budgets vont diminuer au fur et à mesure, et que c'est, comme je l'avais dit, c'est tourné soit à l'île Maurice, soit en Afrique du Sud, du coup soit aux Philippines, là, Van Damme, ça c'est vraiment, il avait affiché, veut aller tourner en Thaïlande, et il a les moyens de tourner en Thaïlande. Donc déjà, la caméra, les plans sont beaux, c'est réalisé par qui ? C'est réalisé à quatre mains, donc c'est-à-dire par le producteur, qui est Marc Dissal, et par un chef-op, qui est David Worth. Donc autant vous dire, voilà, d'un côté, on a un producteur qui passe à la réal, et de l'autre, un chef-op qui passe à la réal, on voit vraiment que c'est le côté technique qui est assuré. Donc j'ai même envie de vous dire, c'est réalisé à six mains. Donc c'est-à-dire les deux mains de Marc Dissal, les deux mains de David Worth et les deux autres mains de Jean-Claude Van Damme. Voilà, donc c'est vraiment un film choral, ça a de la gueule. Voilà, donc de le voir aujourd'hui, ça a de la gueule. Il y a de la violence. Le scénar est peut-être linéaire, mais il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et surtout, il y a une implication émotionnelle de par l'acting de Jean-Claude Van Damme. Alors, Kickboxer, ça raconte quoi? Ça va raconter en fait l'histoire de deux frères, donc Eric Sloan et Kurt Sloan, voilà. Donc Eric, c'est le grand frère de Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme étant Kurt Sloan, et Eric, c'est une grande gueule, c'est le champion d'arts martiaux américains, notamment de Muay Thai, voilà, donc qui est un art de combat thaïlandais. Donc il est, c'est le champion américain, et il décide en fait d'aller en Thaïlande pour affronter, de revenir aux origines au final de cet art martial, et il décide d'aller affronter le champion local, histoire de montrer que ben, les Américains sont les plus forts sur quelque chose qui vient de Thaïlande. Donc autant dire qu'il a une grande bouche, une grande gueule, et que voilà, sa modestie ne l'étouffe pas. Donc il arrive là-bas, et il va affronter en fait le champion local qui est Tong Po. Voilà. Et Tong Po, en fait, vous le voyez dès les premières minutes en fait, du métrage, s'entraîner dans une pièce, et le mec, il tape dans un pilier. Voilà, donc dans un pilier en béton, et il défonce le pilier en béton plus le plafond. Et ça, tout ça observé par Jean-Claude Van Damme. Donc autant vous dire qu'à ce moment-là, le petit frère, il n'est pas en confiance du tout. Donc le combat est organisé, donc Tong Po pète un pilier, et il arrive sur le ring, et qu'est-ce qui se passe? Il pète le Eric Sloan en deux, et il lui brise la colonne vertébrale, et il fait de lui, en fait, un paraplégique. Voilà. Donc, autant vous dire que niveau violence, alors il n'y a pas de sang, enfin s'il y en a un petit peu, mais au niveau du body count, on est plutôt pas mal quand même. Hein. Ça se passe dans le premier quart d'heure. Donc on s'oriente au final vers un revenge movie en fait. Voilà. Ce qui est très efficace au final, hein, parce que le Tong Po, il a une sale gueule, donc ça faut le dire, voilà, il a la gueule du mec que t'as envie de fumer. Donc voilà, donc il a une sale gueule, t'es là en train de dire, ah oh, putain, quand même, le Eric Sloan, il avait une grande bouche, mais il méritait pas d'être paraplégique, mais il est paraplégique. Et donc Jean-Claude Van Damme se met en quête d'apprendre le Muay Thai traditionnel en Thaïlande. Donc il va d'école en école, il se fait refouler, voilà, et à un moment donné, il rencontre un ancien vétéran du Vietnam, voilà, et ce vétéran du Vietnam, ce qu'il faut savoir, c'est que quelques minutes avant, il l'avait aidé à amener son frère à l'hôpital, et il se prend de sympathie pour le personnage de Van Damme, et il lui parle en fait d'un vieux maître qui ne forme plus personne. Donc c'est toujours alors ça c'est le cliché un petit peu, hein, qu'on a dans les films d'arts martiaux de l'époque, on a ce vieux maître là qui décide de plus entraîner, etc., et un code d'honneur. Donc il le présente à ce vieux maître là, et du coup le personnage de Van Damme fera des pieds et des mains, c'est le cas de le dire, pour se faire entraîner du coup, et pour apprendre les techniques ancestrales du Muay Thai. Donc s'ensuit, du coup, on pourrait dire que le film a une structure ternaire, hein, donc la première va poser clairement les enjeux, donc avec ce body count qui fait que ça va déclencher le revenge movie. La deuxième partie, ça va être un film d'entraînement, voilà, le training movie, voilà, et la dernière partie qui est la synthèse, qui est l'affrontement avec Tong Po. Donc voilà, on va dire que la structure est pas des plus complexes, mais elle est efficace. Ça a le mérite d'être efficace, et n'oubliez pas qu'on est sur un film qui dure 90 minutes, et ça, voilà, sur 90 minutes, c'est très bien. Voilà, ça fait 30 minutes, 30 minutes et 30 minutes. Voilà, pas plus, ni plus, ni moins. Donc, on va suivre ces périodes d'entraînement, et c'est là aussi je trouve que ce film-là, il a une force, c'est que on n'est pas dans le pur film de bourrin. Donc, c'est-à-dire que dans cette période d'entraînement, on verra le personnage être un peu déstabilisé, aller au bout de lui-même, en fait, lors de scènes, en fait, qui sont très graphiques, hein, notamment ce fameux grand écart. Grand écart, il sait le faire, mais dans le film, on présume que non, et il se fera carrément écarteler de manière moyenâgeuse pour obtenir le grand écart. Donc ça amène un petit peu de relation de souffrance par rapport, et d'empathie par rapport au personnage. Donc on a un personnage qui, dans ses séances d'entraînement, donc se fait écarteler les jambes pour être plus souple, il tape du coup contre un arbre, voilà, et il pète l'arbre au final, donc ça c'est assez douloureux aussi, mais ça amène de l'empathie, et il va aussi développer son agilité en échappant à un chien qui a les crocs, parce qu'il a des morceaux de viande accrochés à lui, il se met à courir. Voilà, donc on a pas mal de scènes qui sont assez intéressantes au niveau du training movie, qui poseront des bases, hein, pour les films du genre futur. Et à côté de ça, il a le temps de compter aussi un petit peu Fleurette avec la petite nièce du coup du vieux maître, voilà, et ça amènera aussi quelques scènes. Voilà, on a le côté un petit peu, je fais du training, j'apprends de nouvelles choses et je les mets en application, où le vieux maître n'hésitera pas à le mettre dans des situations déstabilisantes pour pouvoir le tester au niveau de ses nouvelles techniques. Et c'est notamment une scène qui est assez drôle, voilà, alors qui peut être, ça oscille entre le ridicule et le drôle, c'est la fameuse scène du bar. Voilà. Donc c'est-à-dire que le vieux maître amène Kurt Sloan dans un bar, il lui bourre la gueule avec un alcool local, voilà, et il va raconter des saloperies, on va dire, au gang du coin, pour que le gang du coin lui tombe sur Kurt Sloan, et Kurt Sloan se battra en mode bourré contre le gang du coin, voilà. Parce qu'il y a quand même un vieux fond mafieux. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage de Tong Po, c'est le bras armé du mafieux local, et il contrôle un petit peu tous les patelins du coin. Donc au final, si Jean-Claude Van Damme, il venge son frère et qu'il fume Tong Po, il libère un peu les villages du coin. Voilà, c'est assez basique. Donc revenons-en à cette scène du bar qui donne lieu à un moment de zèderie, détente, c'est qu'on y voit notre Jean-Claude Van Damme préféré opérer une petite danse assez nasillarde. Puis faut le voir aussi très content de nous montrer sa musculature avec un juste au corps, non, qui est pas possible, quoi. Voilà. Donc il y a une danse assez Z, plus la tenue vestimentaire, c'est génial. Voilà, c'est génial. Et c'est ce que j'aime aussi dans ces premiers films de Van Damme, c'est que, ouais, c'est couillon, mais... Tu sais, il a une forme de candeur et de foi en son personnage et dans ce qu'il fait, qui font qu'on peut qu'accepter ça, quoi. Voilà, on peut qu'accepter ce qui nous est montré à l'écran. Donc voilà. Donc on arrive à la fin de ce deuxième tiers où il acquiert toutes les bases, etc. Donc du Muay Thai. Donc on a le grand frère qui sort de l'hôpital, qui est sur un fauteuil roulant. Et du coup, Tong Po et le mafieux local, on vend en fait de ce qui se passe, de ce qui se trame. Et de ce combat qui approche. Et ils se disent que, ben ouais, ils vont se faire éclater la gueule, donc ils vont tenter de déstabiliser notre Jean-Claude Van Damme préféré. Alors oui, hein, je suis complètement dans le spoiler, mais écoutez, vu comme je vous le raconte, je pense que ça vous donnera envie de le voir. Donc ils n'hésitent pas, juste avant le combat annoncé entre Tong Po et Kurt Sloan, à enlever le frère de Kurt, donc c'est-à-dire Eric, si vous suivez toujours, et puis à violer la petite amie de Jean-Claude. Je vous avoue que j'avais oublié ça, et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah ouais, quand même, hein, quand même, ils y vont comme il faut. Donc du coup, ce qui fait que le combat final, ça a rajouté un petit peu de sel sur une trame qui était assez linéaire, parce que oui, on le voit concrètement, Jean-Claude, il va lui exploser la gueule à Tong Po, et ils vont essayer de le construire un petit peu à la manière d'un Rocky. Vous savez, les Rocky, là, les phases de combat, c'est d'abord j'en prends plein la gueule, pour une raison X ou Y, parce que j'ai perdu mon vieil entraîneur, ou parce que ça va mal dans mon couple, ou parce que j'ai perdu Apollo Creed, voilà. Et puis après, il y a le revirement, et puis j'éclate l'adversaire et je gagne, voilà. Donc là, du coup, pour ce combat final, le fait qu'il retienne, du coup, en otage, son frère, eh ben, il va subir, dans un premier temps, ce combat de fin. Voilà, on va voir le personnage de Jean-Claude qui va subir. Et du coup, on va avoir une trame parallèle où le vieux maître, à l'aide du vétéran du Vietnam, vont aller délivrer du coup le grand frère pour permettre à Jean-Claude de se libérer. Mais il lui manquait encore une cacahuète à Jean-Claude pour pouvoir éclater la gueule de Tong Po. Et la cacahuète, elle viendra de Tong Po lui-même, qui lui dira, parce qu'il a une seule phrase dans le film, hein, le Tong Po, il lui dira « Avec Mylin, bonne baise ». Et donc alors là, le Jean-Claude, voilà, il comprend que du coup, Mylin, donc son crush, eh ben, elle s'est fait violer par Tong Po. Alors autant vous dire que ce qui arrive derrière, il lui éclate la gueule, mais avec toutes les prises connues de Muay Thai, et même avec des ralentis en mode je gueule à la Steve James, quoi. Donc le mec ramasse, en plus pour vous montrer qu'il est en mode Uber Van Damme, c'est-à-dire que j'en ai parlé en intro du podcast, ce combat se fait du coup selon les traditions ancestrales, donc c'est-à-dire avec des gants formés à l'aide de liens, et du coup qui vont être plantés dans une espèce de glu qui va pouvoir permettre de coller des tessons de bouteille. Donc voilà, donc autant vous dire que quand Tong Po il racle un petit peu le visage de Van Damme, ben ça fait mal, Voilà, ça fait mal, hein, vous imaginez. Plus il y a moyen d'attraper le tétanos avec ses conneries, sans déconner. J'espère qu'il avait fait ses rappels. Donc, et ben là, il passe en mode Uber. Il se fait couper les gants et il le savate directement. Voilà, sans gants, à main nue, rien à foutre. Il le démonte. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que à ce niveau-là, on va dire toutes les promesses sont tenues. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le personnage de Tong Po, voilà, moi à l'époque, c'est vrai que bon, on le voyait en VHS, etc. Donc l'image était dégueulasse, donc on n'y faisait pas forcément attention, mais il avait une sale gueule. Voilà, il y a toujours eu un truc où tu te dis, putain, c'est bizarre, le mec il ressemble pas trop aux autres Thaïlandais. Ben, en fait, tu comprends mieux en Blu-ray, parce que tu vois bien le maquillage prosthétique. En fait, le personnage de Tong Po, qui est crédité en tant que Tong Po dans le générique de fin, donc genre as himself, ben en fait c'est un pote à Van Damme, c'est un pote d'entraînement de Van Damme, donc c'est un Marocain le mec, donc rien à voir, voilà, je crois que c'est Michel Kissi, de mémoire, et du coup ouais, c'est un Marocain, donc rien à voir, donc je trouve ça génial. Il y a quand même un côté, voilà, j'essaye de rendre un peu l'appareil à mes potes, donc voilà, et pour la petite légende, sur le personnage de Tong Po, donc c'est quelque chose qui a été organisé par Van Damme, c'est-à-dire que Menahem Golan n'en voulait pas en fait, hein, de Michel Kissi, et ça on les apprend dans les bonus ESC, j'en parlerai un petit peu plus tard, hein, de l'édition, et du coup voilà, il dit à son pote, voilà, de se faire un maquillage prosthétique de dingue, voilà, et genre quand ils descendent de l'avion, apparemment Menahem Golan et Jean-Claude Van Damme tombent sur Michel Kissi, et quand ils le voient, voilà, Menahem Golan il dit ouais, ok, d'accord, lui ça va être Tong Po. Donc voilà, c'était un moyen aussi, voilà, faire une parenthèse là-dessus, à l'ancienne, un peu de forcer le destin. Donc voilà, on peut tirer son chapeau à Jean-Claude, qui a réussi aussi à placer son pote à l'époque sur une production américaine. Donc au final, tout est bien qui finit bien, parce que voilà, Jean-Claude pète la gueule de Tong Po, il finit avec Mylène, donc tout va bien, et puis en fait on finit ce film avec la banane, on a eu notre quota de suspense et de baston, et voilà, et donc ça c'est en place. Donc Kickboxer, ça sera un succès en salle, ça sera un succès en vidéo, et ça ne fera que amener Jean-Claude Van Damme un peu plus haut sur la carrière qu'il attend, mais globalement, voilà, Kickboxer, Bloodsport, ces deux premiers films, c'est une date dans le cinéma d'action d'époque, et ça impose une nouvelle action star. Alors, du coup, au niveau de ce Kickboxer, quel est son héritage? Qu'est-ce qu'il va amener derrière? Donc, dans un premier temps, ce que fait Jean-Claude Van Damme avec ses deux premiers films va déclencher des carrières à côté, notamment celle de Steven Seagal. Voilà, ça, faut le comprendre aussi. Donc, c'est-à-dire que ce qu'arrive à faire Jean-Claude Van Damme va permettre à d'autres aussi d'émerger dans ce style-là, et comme le public répond présent, donc on va développer des action stars à base d'arts martiaux, donc pour Steven Seagal ça sera l'aïkido, et j'ai envie de vous dire, il serait temps peut-être aussi que je parle de mon amour pour Steven Seagal, mais ça sera pour plus tard. Donc Jean-Claude Van Damme, lui, enchaîne très rapidement d'autres films avec pour ambition d'aller toujours plus haut, et Kickboxer devient une franchise, voilà. Donc il y aura deux mémoires DDTV qui sont tournées assez rapidement, donc n'ayant plus pour star Jean-Claude Van Damme, mais alors là, ça c'était aussi improbable, c'est-à-dire qu'on aura Sacha Mitchell, donc le Cody de notre belle famille, donc acteur débile au Z, qui deviendra hyper sérieux avec un doublage VF, je vous en parle même pas tellement c'était Z, voilà, qui deviendra la star de ces kickboxers-là, donc il y aura Kickboxer 2, 3, 4, 5, donc ça ira jusqu'au numéro 5, si je dis pas de bêtises, et de temps en temps, on retrouvera Albert Pune, donc réalisateur canon maison, derrière la caméra de certains de ces films-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette franchise va être réactivée en 2016, voilà, par John Stockwell. Alors là, ça c'est le truc improbable. John Stockwell, donc acteur du Christine de John Carpenter, et réalisateur de certains films, comme notamment Bleu d'Enfer avec Jessica Alba. Et ben du coup, il va se retrouver à la tête de ce film-là, et ça sera une espèce de reboot, avec dans le rôle principal de Kurt Sloan, Alain Moussy, donc un artiste martial, du coup, cette fois-ci canadien, voilà. Et du coup, on retrouvera Jean-Claude Van Damme dans le rôle du vieux maître, voilà, qui n'est pas Kurt Sloan, qui sera le vieux maître Durand. Il est pas dégueulasse quand même ce film-là, il s'appelle du coup Kickboxer Vengeance, donc c'est quand même con, parce que de toute façon c'est toujours une histoire de vengeance, bon, c'est de la merde, donc c'est un remake de Kickboxer, bon, Kickboxer Vengeance, donc ça c'est en 2016, et dans le rôle de Tong Po on a Dave Bautista, voilà. pourquoi pas. Donc finalement, je crois qu'il y a pas loin de 20 millions de dollars de budget, donc c'est un petit budget, mais c'est pas non plus de la merde. Donc ça a un certain succès, et ça amènera une séquelle, alors sans John Stockwell, sans Dave Bautista, mais avec Mike Tyson, pourquoi pas, Christophe Lambert aussi, et pourquoi pas non plus, et toujours Alain Moussy et Jean-Claude Van Damme dans le rôle du Maître Durand. Donc voilà, Kickboxer, ça a fait son trou. C'est une franchise, voilà, improbable certes, mais une franchise. Et aujourd'hui, on va parler en fait aussi de cette édition réalisée par ESC Distribution. Donc, alors, cette édition, vous voyez un petit peu, je fais un petit peu de bruit pendant le podcast, je l'ai sous la main, donc sous la forme d'un digipack, elle est plutôt belle. Voilà, donc quand vous l'ouvrez, voilà, ça a deux volets, où vous aurez d'un côté le Blu-ray et le DVD, il y a un poster avec, voilà, donc ce qui a fait beaucoup sourire ma moitié, qui m'a dit, mais toi t'aimes bien avoir des gens torse nus, en fait des hommes torse nus affichés dans ton bureau, et j'ai répondu, eh oui, effectivement, c'est vrai que ça peut sembler bizarre aujourd'hui, mais oui, avoir du Van Damme torse nu sur son mur, ça en impose, surtout dans une pièce qui est dédiée au podcast. Donc voilà, donc c'est l'occasion d'avoir un joli poster, un joli cover en fait du film, et du coup le master est carrément canon, c'est super propre, putain, j'ai revu ça la dernière fois, tranquillement installé dans mon salon, le master est de toute beauté, ça fait plaisir, voilà, le son est nickel, donc tout est au poil sur l'édition. Parlons des bonus, alors les bonus, donc on va en parler, parce qu'il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Donc déjà, c'est l'occasion d'avoir un entretien avec Jean-Claude Van Damme, donc ça c'est toujours cool. Moi, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup Van Damme, il est pas avare en anecdotes, et voilà, il a un fort capital sympathie, c'est sympa. Et alors, ce que j'arrive pas à comprendre, alors je comprends que SC Distribution c'est un distributeur, c'est un éditeur, et qu'ils sont pas forcément dans le domaine de la prise de vue vidéo, dans la fabrication de contenu, mais j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent avoir un habillage graphique, notamment pour les bonus qui défoncent, et avoir des prises de vue au niveau des contenus qui sont, on a l'impression que c'est shooté à la volée, quoi, dans les chiottes, quoi. Et voilà, et Van Damme c'est vachement bien, mais je trouve que ça manque, le cadre est pas pensé, t'as l'impression vraiment qu'ils ont chopé le mec, ils avaient 5 minutes montre en main, vas-y parle-nous. Donc le micro au niveau du son il est mal orienté, donc tu sais, voilà, pour vous tout vous dire, ce bonus là c'est Jean-Claude qui est pris pendant une pause de son training, donc il est limite un peu essoufflé. C'est cadré très très proche, on voit même dans le miroir de la salle de sport derrière une journaliste, etc. Donc il y a un côté vraiment pris à la volée, donc je peux comprendre qu'avec ce genre d'acteur, du coup, bah, faut faire avec les moyens du bord, etc. Mais voilà, les gars, je pense qu'il y aurait moyen de réfléchir à autre chose. Mais je pense pas que c'est votre problème à vous. C'est plutôt le problème au niveau du cadreur qui demanderait peut-être un peu plus de préparation à ce niveau-là. Et pourquoi je me permets de dire ça ? Voilà, et c'est ça, hein, petit podcasteur. Là, pourquoi il se permet de dire ça ? C'est parce que dans mes activités professionnelles, je bosse là-dedans. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire ce genre de remarques. Donc, alors, l'entretien est cool, mais en termes de prise de vue, on pourrait mieux faire en termes de cadre. Autre bonus intéressant, qui n'est pas un bonus vidéo, mais qui est un bonus papier, c'est-à-dire que, j'en ai pas parlé, mais il y a un livret, en fait, hein, qui est contenu dans la tranche, qui nous apprend énormément de choses avec des images de tournage, et ça, c'est toujours cool. Moi, j'aime bien avoir le côté un petit peu papier. En même temps, j'édite un fanzine depuis une vingtaine d'années, donc vous m'étonnez que j'aime bien l'objet, quoi. Mais ouais, j'aime bien ce côté de livret. Donc, il y a un travail éditorial qui est très intéressant de remettre en perspective, et qui se concentre plutôt en fait sur Bloodsport, donc voilà, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus d'anecdotes pour nourrir ce podcast et en apprendre un peu plus. Donc ça, c'est plutôt cool. On a un autre bonus qui est dédié en fait à Hélène Méric, qui était la fille de Starfix, entre guillemets. Starfix, qui était une revue hyper connue du cinéma dans les années 80-90, aux côtés de Mad Movies et de l'écran fantastique, et qui n'existe plus aujourd'hui sous sa forme originelle. Et donc du coup, elle s'est retrouvée assez vite à interviewer dans cette période-là tous les gros bras du cinéma d'action, et a entretenu une relation professionnelle suivie, et non pas personnelle, mais professionnelle, avec ces gens-là. Donc elle y a dédié un bouquin il y a quelques années de cela, et donc du coup elle nous parle un petit peu de comment elle a pu interviewer Van Damme à l'époque. Donc on a pas mal d'anecdotes en fait qui sont intéressantes, mais du point de vue des films, ça reste un petit peu du niveau, ça m'avait fait rigoler, du niveau un peu de ta mère qui te parle d'un film. C'est vrai qu'elle, quand elle te parle de Kickboxer, comment on l'avait trouvé en salle, c'était beau. Oui, qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Oui, c'était beau. Donc voilà, c'est assez rigolo d'avoir ce côté-là où tu te rends compte au final que ces journalistes-là, à l'époque, ont vécu cette période-là et qui ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait en fait. Voilà, c'était beau, machin, qui n'ont pas eu le recul qu'on a aujourd'hui pour analyser l'impact que ça a pu avoir sur le cinéma d'action en général. Donc un bonus assez sympa. Et maintenant, on va parler d'un tout autre type de bonus que... Comment le décrire? Donc vous avez deux bonus en fait qui sont dédiés aux techniques de combat utilisées et aussi de la success story de Kickboxer qui sont menées en fait par un artiste martial qui est André Zetoun. Alors du coup, loin de moi l'idée en fait de mettre à dos André Zetoun parce que je pense qu'il pourrait m'exploser la gueule s'il me croisait dans la rue, mais en fait le mec a l'air proche de la retraite et du coup il t'explique un petit peu les coups qui sont faits dans le film et tu sens que quand il va te la montrer, ça va être plus ridicule ou ça n'aura pas le même impact que le reste. Donc le mec était avec un micro, voilà, le poids des ans se voit sur lui, si vous voyez ce que je veux dire, et quand il tape, il est soufflé. Donc au final, je comprends l'envie de SC Distribution d'aller chercher un artiste martial pour parler de ça. Je pense qu'ils auraient pu en trouver un autre. Alors il est très bien André Zetoun, mais et du coup ça désamorce un petit peu ce qu'il tente de nous expliquer et ça amène de temps en temps un côté ridicule, rigolo au truc. Donc voilà, c'est peut-être les bonus les plus faibles de l'édition, mais on va pas se plaindre au final parce qu'on a la possibilité pour 20 balles, parce que c'est toujours à peu près ça, de voir ce film-là dans de bonnes conditions, d'avoir des points de vue divers et variés, que ça soit ceux de Jean-Claude Van Damme, que ça soit ceux d'Hélène Méric et même ceux d'André Zetoun sur une œuvre comme Kickboxer. Donc on va pas bouder notre plaisir et dire que quand même, ouais, si vous aimez Jean-Claude Van Damme, c'est un must-have à avoir. Donc sachez que l'éditeur s'est fendu d'une édition muchos dineros, donc une édition vraiment où on a mis les petits plats dans les grands sur double impact en mode 6000 VHS. Où il y a de tout dedans, un fac-similé d'un magazine de l'époque, un poster, etc. Donc ils ont mis tout ce qu'ils avaient dedans, et du coup sachez qu'ils ont signé un partenariat, donc ils ont dû récupérer les droits de pas mal de films de Van Damme, et ils vont commencer à partir de l'année 2021 à nous sortir des pépites. Donc a été annoncé déjà il y a quelques mois, coup pour coup. Ah, moi je l'adore coup pour coup, j'en ai un bon souvenir. Donc sachez que c'est l'un des premiers scénars de David S. Goyer, voilà, l'homme qui était derrière Blade et qui est derrière les Superman de Zack Snyder, et surtout que c'est un film de prison. Donc imaginez, voilà, pour moi c'est aussi bon Code Sécurité, sauf que vous rajoutez le fait que c'est Van Damme et qu'il va pouvoir faire son coup de pied retourné dans les airs et du grand écart, donc ça c'est cool. Donc il y a coup pour coup et il y a surtout Chasse à l'homme, Hard Target, qui est le premier film de John Woo. Et ce Hard Target, je l'aime bien parce qu'on dirait une espèce de suite remake d'Avenging Force. Voilà, donc il y a ce côté-là un petit peu, et dedans, Van Damme, il a une gueule pas possible, il s'appelle Chance Boudreau, il a un mulet, c'est quasiment un personnage de western. Non, il est génial, et on peut espérer, parce que ce film-là, sachez que il a été tronqué à sa sortie sale, je crois qu'il fait moins de 90 minutes, et apparemment, il y aurait une version longue, voilà, il y aurait une version longue qui permettrait de rendre justice au travail de John Woo et de Van Damme sur ce film-là, et on peut espérer, alors ils n'en ont pas parlé, mais on pourrait espérer que cette superbe édition de SC Distribution permette de visionner aujourd'hui ce fameux Director's Cut, comme ils ont pu le faire récemment avec le Cabal de Clive Barker. Donc de grosses attentes sur cette filmo qui va être rééditée par ESC Distribution en 2021, sur cette filmo de Jean-Claude Van Damme. Donc j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast court, notamment cette vérif sur le Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Je reviendrai forcément sur des films de baston de Van Damme au fur et à mesure, et du coup je voulais annoncer, on aura droit à un podcast long sur la saga Universal Soldier, où je vous dirai tout le mal et tout le bien que je peux penser de Roland Emmerich sur sa filmographie, et surtout en revenir sur cet enchaînement de séquelles improbables, où on va enchaîner deux DTV minables, et après repartir sur un reboot, voilà, réalisé par le fils de Peter Yams, c'est-à-dire John Yams, et qui nous amènera un chef-d'œuvre inespéré, du coup, avec Universal Soldier, le jour du jugement, qui, si on comptabilise tout, en fait, était le sixième opus, où on aura aussi la venue d'un autre castagneur en chef qui est Scott Adkins. Voilà, donc ça sera pour le mois de décembre, et là pour le mois de novembre, du coup on va rester dans la castagne, mais on va revenir à un truc un peu plus cool, un peu plus tradi. On va aller sur la trilogie d'origine des Karate Kid, suivie d'analyse en fait, et de mon avis, qu'on attend tous avec impatience, sur la série Cobra Kai. Vous venez d'écouter le 11e épisode de La Vérif, et ici à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel. Merci pour votre écoute.
Le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de
7ème dimension en mode podcast.